nouveauté. On est dans le livre de l'Exode. Je suis passé au format tablette. Hein, parce que Moïse, il avait une tablette. Je teste. Dieu nous appelle. Le message que quand j'ai lu le livre de l'Exode, vraiment ce qui était sur mon cœur, c'était que Dieu appelle. Et vu que le message est pour nous ce matin, et il m'a beaucoup parlé, Dieu nous appelle. Donc nous avons eu Pierre la semaine dernière qui nous a fait ce survol du livre de l'Exode. Et si vous avez un petit peu la fin de Genèse, on a Joseph qui rapatrie toute sa famille. Et Farid a spoilé mon message. Il a lu les premiers versets, mais bon, en même temps, il savait que j'allais commencer par ça. Pour survivre, la famille que Dieu a appelée, la famille de Jacob, la famille d'Israël, c'est une famille qui est choisie, un peuple qui est choisi pour être un exemple. Ce peuple se retrouve en Égypte. La famille se multiplie, comme l'a dit Farid, c'est ce qu'on trouve dans l'Exode, au chapitre 1. Il devient un peuple nombreux. Il va être assez rapidement dans la souffrance, car le pharaon pense que ce peuple va venir l'oppresser, va être une menace. Mais dans le silence de cette période, Dieu va agir. Il va préparer un libérateur pour accomplir son plan de salut pour ce peuple. Et c'est ce qu'on va commencer, que l'on va voir tout ce process dans le livre d'Exode. Et aujourd'hui, donc, Exode 1 et 2. On va découvrir que Dieu n'oublie pas. Il entend, il prépare. Et chaque détail de ce passage va nous préfigurer le salut de Jésus-Christ, le vrai libérateur. On va essayer de faire 5 points. Enfin, moi, vous allez essayer de les écouter. Je vais insister plus particulièrement sur les sages-femmes, sur le salut et la préparation de Moïse. Et nous allons commencer donc avec le premier point. Dieu nous connaît. Donc Exode 1, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Donc Exode 1, ça commence par les noms. Si je ne me trompe pas, le livre de l'Exode en hébreu, c'est Shemot, ou Weli Shemot, c'est « voici les noms ». Donc dès les premiers mots, Dieu nous montre qu'il connaît chacun de ses enfants par son nom. Même si les siècles ont passé, Dieu n'a pas oublié. Dieu veut se glorifier par sa constance. Dieu dira plus tard en Jean 10, 3, « Je les connais par leur nom ». Il appelle ses brebis par leur nom. Pardon. Donc ça, ils sont en Égypte, ils sont installés, ce peuple se multiplie et il vient un nouveau roi. Il s'éleva sur l'Égypte, donc Exode 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Joseph qui avait été un grand libérateur, alors pour sa famille, mais pour l'Égypte. Et donc ce nouveau roi ne connaît pas Joseph. Il ne se rappelle pas ce qu'il a fait pour l'Égypte. Il ne se rappelle pas qu'il est de cette famille, de ce peuple nombreux maintenant. Est-ce que ça ne serait pas un constat de notre humanité, un monde qui oublie ce message, qui oublie celui qui est venu pour sauver ce monde? Pharaon a servi Israël. Ce peuple devient une menace car il se multiplie, il devient trop nombreux. C'est un peuple béni. C'est le peuple de Dieu, un peuple qui a un avenir puissant. Le peuple crie et gémit à Dieu et Dieu va entendre. Il va préparer son plan, le salut pour ce peuple. Et là, quand j'ai préparé, je suis vraiment tombé, donc, dans le passage que je vais lire maintenant, les sages-femmes. Je ne sais pas vous, mais alors, je pense que c'est un passage que j'ai lu 4, 5, 10 fois, mais vraiment, j'ai été percuté par ça. Donc, Exode 1, versets 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Siphra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir des enfants, à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur leur siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Waouh ! Quel ordre terrible de tuer tous les garçons. Tous les nouveau-nés, les sages-femmes avaient ce pouvoir. Alors, on n'avait pas, je pense, comme dans notre monde, où ben, on n'a pas un taux d'enfants qui est élevé, de mortalité infantile. Ça arrive encore. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et là, du coup, le roi vient voir, il y a deux femmes pour un peuple nombreux qui s'occupent d'accoucher les enfants et il leur dit, ben, si c'est des garçons, vous les faites mourir. Et ces deux femmes décident de désobéir. Pire que ça, elles décident de lui mentir. Et Dieu les bénit. Ça m'a un peu dérangé. Mais c'était que le début dans ma préparation. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Elles ont préféré choisir la crainte de Dieu plutôt que la crainte de leur roi qui avait sûrement un pouvoir de vie et de mort sur elles. C'est un acte de courage immense. Elles risquent leur vie, mais elles savent que la vie appartient à Dieu seul, parce qu'elles ont dû fréquenter ce peuple. Et en retour, Dieu les bénit. Au verset 21, Dieu fit prospérer leur maison. Leur attitude annonce déjà ce que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, Pierre, qui dit dans Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Elles craignent Dieu plus que les autorités injustes, la gloire dans l'obéissance, et Dieu honore leur foi, non pas leur mensonge, bien sûr, mais leur obéissance intérieure à la voix de Dieu. Ce passage, forcément, a fait écho à un autre passage, dans Matthieu 2, 16. On est dans le Nouveau Testament et on voit un autre roi, Hérode. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Quel est ce parallèle ? Notre Sauveur, Jésus, est envoyé sur terre. Les rois mages lui rendent visite et ils sont avertis du plan d'Hérode et ils partent par un autre chemin. Et Hérode se rend compte qu'il a été trompé et il décide de faire mourir tous ses enfants. Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, on voit « Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages, donc Matthieu 2, 13 à 16. Le retour en Égypte. Il a été appelé à l'Égypte. On voit vraiment des similitudes. Hérode ordonne la mort des enfants pour tuer Jésus. Et Jésus va dans... Jésus, il était enfant, il est emmené par son père. Le même esprit de destruction cherche à étouffer le plan de salut à la naissance. On le voit pour Moïse et on l'a vu pour Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui vont répondre à son appel, comme ces femmes courageuses qui ont été un instrument du dessein de Dieu. Des femmes qui se lèvent pour défendre la vie et la vérité. Des femmes qui choisissent la fidélité de Dieu plutôt que la peur des hommes. Des femmes qui refusent de collaborer avec le mal, même sous la pression. La crainte de Dieu est la source de la vraie sagesse. Et comme je suis sympa avec vous, je pense que ça ne s'adresse pas qu'aux sages femmes. Je pense que parmi nous, il y a aussi des hommes qui doivent se lever pour défendre la vérité. Moïse est sauvé, n'est pas né à cette époque-là. Il est né un petit peu plus tard, où là, cette fois-ci, il y a un ordre encore plus fort du roi qui est « on va tuer tous les hommes ». Donc là, ce n'est plus à la naissance, c'est le peuple. Les Égyptiens ont le droit d'aller tuer les enfants hébreux, tous ces hommes. C'est un décret. Et on voit au chapitre 2, dans Exode, verset 2, « La femme conçut et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Il vit qu'il était beau. C'est une belle question. Mesdames, celles qui sont mamans, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui trouve son enfant pas beau? C'est un grand mystère. C'est la question qui fait l'unanimité. Les bébés sont beaux. Comment a-t-elle réussi à cacher cet enfant pendant 3 mois? J'ai pas d'enfant. J'en ai gardé quelques-uns. Comment c'est possible? Mais on voit vraiment qu'il y a, dans ce terme beau, il y a un terme hébreu qui se dit T-O-W-B, je crois que je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Je ne sais pas le prononcer. Ça ne parle pas seulement d'apparence. Dans la Genèse, Dieu vit que cela était bon, et ce terme, c'est le même qu'elle vit que cet enfant était beau. Il y a vraiment dans ce terme un discernement de la bonté, de l'appel de Dieu sur cet enfant. Hébreux 11, verset 23, nous confirme « Par la foi, les parents de Moïse cachèrent l'enfant, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. » Il y a un acte de foi derrière cela. Pas seulement pour sauver leur enfant, mais vraiment, ils ont perçu qu'il y avait un avenir, un signe du plan de Dieu. Bon, pour ceux qui ont lu, je vous raconte quand même la suite. Cet enfant, au bout de 3 mois, a besoin d'être élevé. Et donc, du coup, sa mère le mit dans une corbeille de joncs et le déposa parmi les roseaux du Nil. Le mot corbeille, encore en termes hébreux, qui est théba, c'est le même que l'arche de Noé. Quelle similitude encore! L'arche de Noé, un peu avant dans la Genèse, qui a été un plan de salut pour l'humanité. Et là, Moïse est mis dans une petite arche, symbole du salut à travers des eaux, les eaux qui sont le jugement. On en parle des fois quand on passe par les eaux du baptême, les eaux qui peuvent être préfigurées, le jugement. Et justement, les eaux qui pouvaient tuer cet enfant, le Nil, qui je ne pense pas était un long fleuve tranquille, Dieu l'utilise. Et on voit dans 1 Pierre 3, versets 20 et 21, cette eau préfigure, était une figure du baptême qui maintenant nous sauve. Le Nil devient un signe de baptême, ce qui devait détruire devient un moyen de salut. Et de la même manière, nous pouvons faire le parallèle avec la croix. La croix était un instrument de mort pour Jésus. Elle est devenue pour nous le lieu du salut. La fille de Pharaon, son père, a décrété qu'il fallait tuer tous les enfants, vient recueillir cet enfant, ce bébé. Elle le rend à sa mère pour qu'elle devienne sa nourrice. Un plan merveilleux. Dieu utilise même les puissances, des fois du monde, pour accomplir son dessein. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses une situation menaçante, incompréhensible, mais Dieu veut transformer ces circonstances en lieu de salut. Tu te trouves ici et Dieu t'appelle. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, tu peux répondre à son appel. Tu peux accepter son plan. Tu peux accepter son plan de salut pour toi. Il prépare ton appel, peut-être dans le secret, comme il a préparé Moïse dans les eaux. La quatrième partie, Moïse. Moïse a grandi. Il a reçu toute l'éducation. C'était un Égyptien, pas de naissance, mais il a grandi avec la fille de Pharaon. Et au verset 11 et 12, on voit « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères, il se rappelle, et il vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il le regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. » Et alors là, deuxième, pour moi, coup dur. Ces femmes, ces sages-femmes qui mentent, mais qui rentrent dans le plan de Dieu, et là, Moïse, préparé à être le sauveur, qui vient commettre un meurtre. Moïse a agi selon sa propre justice. Il vient faire, il veut bien faire, mais sans Dieu. Il pense libérer son peuple par la force. Résultat, c'est un meurtrier. Il est rejeté, ça devient un fugitif. Au verset 14, les gens de son peuple lui disent « Qui t'a établi juge et chef sur nous ?» Évidemment, ce qui m'a paru clair, c'est que Moïse n'était pas reconnu par les siens. Et on voit dans Jean 1, verset 11, Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle analogie. Dieu aurait pu se détourner de Moïse, mais non. Il prend quelqu'un de brisé pour mieux le former. Moïse a peur. Le roi Pharaon décide, le cherche pour faire justice, sûrement le faire mourir. Alors, comme il est condamné, Moïse, il part en exil, dans le désert, il se retrouve à Madian. Et là, Dieu prend soin de lui. Il lui offre une famille, une femme, un enfant, un métier. Et il devient berger. a priori, pendant 40 ans, il s'occupe de conduire les brebis dans le désert. C'est l'école de Dieu. Dans le silence, Moïse apprend la patience, l'humilité, la compassion. Avant d'être le libérateur du peuple, il doit apprendre à être un berger d'un petit troupeau. On voit ça avec David, qui a appris à... Il était berger, il s'est battu contre le lion, après il a été affronté Goliath, avant d'être roi. Et on voit ça aussi que Jésus dit « Je suis le bon berger ». Dieu nous forme souvent dans l'ombre. Les disciples sont pêcheurs de poissons et Dieu a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Peut-être que dans les circonstances dans lesquelles tu es, Dieu te forme. Dans ton métier, dans ta famille, dans ton service, dans ton association, Dieu t'apprend et Dieu te forme dans l'ombre des choses pour un appel. Moïse voulait peut-être la gloire pour lui. Il a été vite, je me reconnais pas mal dans ça, de foncer d'abord et prier après. Mais Dieu veut lui apprendre que la vraie gloire, c'est la dépendance. Dans le désert, Moïse apprend la gloire de l'humilité. Dieu se glorifie non pas par des héros parfaits, mais par des cœurs transformé. Aujourd'hui, peut-être que tu vis dans la solitude, dans l'injustice, dans l'échec, mais peut-être que c'est une préparation divine. Dieu ne te rejette pas, il te prépare. Il voit ton potentiel. Il veut transformer nos échecs. C'est ça l'école de la grâce. Pour finir sur Exode 1 et 2, ça termine par deux versets où Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu entend, Dieu se souvient, Dieu regarde, Dieu connaît. C'est une progression, ce n'est pas distant. Il voit, il entend, il agit. Mais quand nous ne voyons rien, Dieu agit et Dieu travaille. Et ce Dieu, c'est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Celui qui a préparé Moïse prépare aussi ton salut, ton appel, ta délivrance. Il te forme. Comme j'ai essayé de vous le partager ce matin, Moïse est un type de Christ. Moïse est le libérateur, à ce moment-là, pour le peuple d'Hébreu. Jésus est notre libérateur. Il a été sauvé du massacre des enfants par Hérode. Il a été rejeté par les siens, mais il a été envoyé pour sauver. Non pas sauver une nation, mais pour nous sauver de notre péché, pour nous réconcilier avec le Père. Avant de conclure, deux passages, Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » On a un avenir qui nous sera révélé, un avenir glorieux. Nous pouvons passer par des préparations douloureuses, mais cela n'est que les prémices avant de la révélation glorieuse. Et dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dieu travaille dans le secret, dans la souffrance, dans la patience, prépare une gloire plus grande. » Je pense que vous êtes, comme moi, tous passés par des moments qui peuvent être difficiles. Quand ces moments sont derrière nous, on se rend compte que c'était des légères afflictions et que la gloire que Dieu nous promet est bien plus grande. Aujourd'hui, je ne voulais pas être forcément trop long, mais je voulais vraiment qu'on puisse répondre à l'appel de Dieu. Il y a trois choses importantes. Est-ce que nous allons trouver des femmes ou des hommes courageux qui se lèvent pour défendre la vérité, qui veulent se positionner, qui veulent obéir à la fidélité de Dieu plutôt que vivre sous la crainte, qui refusent le mal même sous la pression? Un deuxième appel, aujourd'hui tu es peut-être dans une étape de ta vie où ton avenir est sombre. Tu ne vois pas où tu vas. Tes circonstances sont lourdes. Que tu puisses simplement répondre à l'appel de Dieu en disant « Je veux être à l'école de ta grâce. Je veux que ces circonstances soient l'ombre des choses à venir. » Peut-être parmi nous, certains sont appelés à prendre soin des gens qui nous entourent, à être des bergers. Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de répondre à cet appel. Et pour moi, le dernier appel, tu es là aujourd'hui et tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Dieu t'appelle. Il a envoyé Jésus pour toi. Et aujourd'hui, ça peut être l'occasion de lui donner ton cœur, qu'il puisse devenir ton sauveur, ton Seigneur. Je vous rappelle, Jésus dit, il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors. Jésus a traversé les eaux de la mort pour nous conduire à la vie. Qu'on puisse répondre à cet appel. Et je vous propose maintenant, simplement, on va fermer les yeux. Je vais terminer par la prière. Et si dans une de ces trois, dans un de ces trois appels, tu te sens concerné, viens, lève-toi. Et avec les anciens, on va prier pour toi. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Ouais, Père éternel, merci pour cet exemple dans Exode où des femmes ont pris position. Elles ont préféré se soumettre à toi, avoir la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. Viens nous montrer les fois où nous devons tenir nos positions et nous appuyer sur toi. Merci parce qu'on voit à travers Moïse qu'il a agi par lui-même et qu'il s'est retrouvé étranger. Il avait une position élevée en Égypte, il s'est retrouvé à garder des troupeaux dans un désert. Mais tu l'as formé, qu'aujourd'hui, les circonstances qui peuvent être difficiles pour moi, je veux te les remettre, car tu es celui qui me forme et qui m'appelle. Tu es celui qui voit mon potentiel. Alors je veux répondre à l'appel. Et merci parce que tu as envoyé Jésus, ton Fils. Et encore aujourd'hui, tu veux sauver. Alors attire à toi que si quelqu'un entende ma voix, qu'il réponde. Amen.